Et ça y est, à peine le premier débat des primaires socialistes passé que les parlementaires, députés et sénateurs radicaux de gauche protestent solennellement contre, je cite, le traitement inéquitable qui est fait dans les médias nationaux par rapport à la candidature du président du parti radical de gauche, Jean-Michel Baylet, aux primaires citoyennes. Ah oui, au PRJ, on n'appelle pas ça les primaires socialistes, mais les primaires citoyennes, peut-être plus rassembleurs. Et nul doute que notre invité en sera aussi pour dire que plus un candidat est populaire, plus son passage dans les médias est long. Alors les postures politiques, il en connaît un rayon et n'a pas attendu qu'un ancien socialiste devenu radical l'ouvre pour l'ouvrir. Pour ceux qui n'aurait pas suivi, je parlais évidemment de Jean-Luc Mélenchon. Notre invité fait partie de ces grandes gueules politiques à qui on ne la fait pas, aussi bien sur les débats nationaux que sur ceux qui fait le quotidien de son engagement, RTE et développement de la Haute-Vallée de la Durance, SNCF, TNT, développement industriel, et j'en passe.
Grande gueule politique des Hautes-Alpes que nous accueillons donc aujourd'hui, notre invité de la rédaction, Joël Giraud, député maire de l'Argentière-l'ABC et vice-président du conseil régional. Bonjour.
Bonjour. Alors, merci. Je suis grande gueule dès le départ, c'est terrible.
Bah comme ça c'est fait. Hein, les auditeurs savent quoi,
c'est
ça.
C'est plus à faire.
Exactement.
Alors nous parlions justement des débats des primaires socialistes ce jeudi, Jean-Michel Baylet.
Les primaires citoyennes, vous voulez dire.
Citoyennes, d'accord. Pour le PRG, candidat.
Non, pas pour le PRG, les primaires s'appellent réellement les primaires citoyennes.
Donc Jean-Michel Baylet, candidat PRG aux primaires citoyennes aux socialistes, sera notamment en visite dans les Hautes-Alpes ce jeudi. Oui. Vous en tirez quoi de ce débat et notamment de son intervention ?
Bah écoutez, déjà sur le débat, alors même si ce style d'exercice est pas toujours très folichon, parce que bon, le côté planté derrière un plot avec des gens qui font plutôt des monologues que des échanges, c'est pas toujours extraordinaire. Mais ce que j'en retire, c'est que justement, beaucoup de Françaises et beaucoup de Français ont écouté ce débat. Alors c'est peut-être aussi parce qu'au-delà du côté novateur, nous avons quand même, pour la première fois dans ce pays, un débat sur des élections présidentielles qui est un débat un petit peu plus sérieux. Donc déjà, je pense que le pari est gagné. Vous savez que chez les radicaux de gauche, on est très pro-primaire, puisque la première proposition de loi qui avait proposé l'organisation de primaires, qui étaient des primaires citoyennes, c'est pour ça que j'emploie le terme de citoyen et pas que socialiste, parce que sans ça, c'est une désignation interne à un parti et ça n'a pas grand sens, et dont on voulait d'ailleurs que ça concerne l'intégralité de la gauche, y compris le Front de Gauche et les écologistes. C'était nous qui l'avions lancé il y a déjà quelques années. On a toujours été pro-primaire. Pourquoi ? Parce que les primaires, ça permet d'exposer qui on est, ses particularismes, et d'éviter que ces particularismes, dans un débat présidentiel, deviennent tellement de singularité qu'au bout d'un moment, les électeurs se perdent sur la candidature de la personne qui est candidate pour la gauche aux élections présidentielles. Donc on a toujours trouvé que c'était un bon système, qui permettait aussi, dans un pays qui est le nôtre, aux petits partis d'exister. Le Parti radical de gauche est un petit parti à l'heure actuelle, puisqu'il n'a que 11 parlementaires dans son groupe, et encore 6 sont encartés, 5 sont assimilés. Donc c'est pour nous l'occasion de revenir sur un certain nombre de thèmes, et je constate que lors de ce premier débat, bon, il y a des thèmes qui ont été effleurés, mais pas assez à mon avis, sur lesquels il faudra revenir.
En deux mots, les
thèmes que j'aurais plus aimé entendre, c'est clairement les politiques territoriales, c'est-à-dire les territoires, qu'est-ce qu'on va faire de nos territoires. Et deuxième thème, c'est l'Europe fédérale, parce qu'on n'a pas parlé d'Europe, ou pratiquement pas parlé d'Europe. En ce moment, la crise est quand même très nette. Il y a une problématique en Europe de solidarité qui est très forte. Et c'est vrai que sur ce plan-là, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Jean-Michel de venir un peu sur le secteur des Hautes-Alpes. Nous sommes les seul à porter depuis des années une Europe fédérale, parce qu'on croit justement à cette espèce d'États-Unis d'Europe qui permettrait aujourd'hui d'avoir une réponse directe à un certain nombre de crises sans être obligé chacun de mettre au pot commun un certain nombre de choses et de faire en sorte que par exemple les taxations financières sur un certain nombre de revenus du capital qui sont un petit peu particulièrement, je dirais, déstabilisants pour l'économie, notamment l'économie locale, puissent être taxées globalement dans le cadre d'une démarche qui est une démarche fédérale européenne. Bon, alors tout ça, je lui ai demandé de venir l'expliquer symboliquement à la frontière franco-italienne, d'ailleurs plutôt du côté italien, ensuite on passe du côté français, pour qu'on se rende compte concrètement de ce qu'est un espace européen. À Montgenèvre, où l'école et la crèche accueillent des enfants français comme italiens, à Clavière, où là encore il y a des sapeurs-pompiers italiens comme français, pour qu'on sente bien ce que c'est cette Europe, et cette Europe en construction dont plus personne ne parle, alors que 85% des textes qui nous concernent au Parlement viennent de l'Europe. Donc je voudrais que ce débat arrête d'être trop franco-français. Bon, c'est pas la peine de faire un débat uniquement sur la Libye non plus, mais on est dans un espace européen qu'on essaie de construire, plus personne n'en parle au niveau des présidentielles, je trouve que c'est un petit peu dommage, et nous sommes là pour remettre les pendules à l'heure. Il n'y a pas que la laïcité comme thème chez les radicaux de gauche.
Alors, aujourd'hui, on l'a bien compris, vous roulez derrière Jean-Michel Baylet, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas forcément lui votre favori. On a retrouvé un texte que vous avez écrit en février dernier sur le site Génération DSK 05,
oui,
et dans lequel vous apportiez un soutien sans précédent à celui qui devait être le candidat socialiste. On
oui,
va pas refaire l'histoire,
fait.
On la connaît. Vous citiez notamment, alors ça je le dis pour les auditeurs qui n'ont pas vu ce texte, mais notamment son exemplarité dans le domaine des droits de l'homme et du citoyen, qu'il était le seul homme à porter et porteur de cet espoir de réconciliation, de solidarité et avec le citoyen et les territoires, justement vous en parliez. Évidemment aujourd'hui il s'est passé 2-3 choses entre Dominique Strauss-Kahn, la France et l'image qu'on pouvait en avoir de lui. Qu'est-ce que vous en gardez de cet épisode essayant de faire court? Moi, l'idée que j'aimerais avoir de votre côté, c'est aujourd'hui, quel regard vous avez, sans revenir sur le passé.
Quel regard simple, c'est que cet homme, par un comportement personnel complètement aberrant, disons quand on ne sait pas se retenir dans ce genre de situation, ça pose quand même un petit problème, a déçu beaucoup de Français. Et j'attendais hier, je vais être franc, plus d'excuses vis-à-vis des Français, parce que quand on est porteur d'espoir pour un certain nombre de choses, politique publique, solidarité et autres... il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il faut un petit peu essayer de faire en sorte que ces pulsions personnelles ne passent pas sur le devant. Donc voilà, je veux dire, moi j'attendais ces excuses-là, après les autres excuses sont des problématiques internes à un couple sur lesquelles je vais pas revenir. Oui, j'ai été déçu, et il n'en reste pas moins que c'est vrai que la dimension économique du personnage manque aujourd'hui au débat politique aussi.
Donc
DSK était un excellent candidat de deuxième tour pour les élections primaires.
Il faudrait qu'il revienne dans la vie politique un jour, selon vous. Ça ne serait pas inenvisageable, malgré ce qui s'est passé.
Moi, je trouve que c'est pas inenvisageable, mais il ne peut pas prétendre rassembler désormais des Français compte tenu d'une attitude personnelle qui est, il a employé le terme d'inconvenant. Moi, j'irais un petit peu plus loin, quoi. Je veux dire, le débat sur la place de la femme dans la société dans cette affaire-là, il a plus le droit de s'en emparer d'une manière ou d'une autre. Hein, franchement.
On va passer à toute autre chose. On va laisser Dominique Strauss-Kahn de côté, puis on va rentrer dans les dossiers locaux.
Notamment les législatives de 2012, où nous aviez annoncé que vous vous représenteriez. Est-ce que votre circonscription vous sera réservée ou est-ce que vous craignez une candidature socialiste?
Il y a toujours eu des accords entre le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche, qui préservent les sortants. Donc je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Ça ne s'est jamais produit dans l'histoire des deux partis. En plus, nous sommes liés au travers de cette dynamique des primaires citoyennes. Donc je ne vois pas en quoi, même si des velléités, c'est tout à fait normal qu'il y ait des velléités et que des gens aient envie de se présenter. Pour autant, moi je suis tout à fait serein et très calme sur ce genre de choses.
Donc une circonscription réservée.
Bah, donc ce sera probablement une circonscription réservée. Après, bon, les accords, c'est pas moi qui les signe pour l'instant, mais l'accord est pratiquement dans les tuyaux, donc c'est pas la peine de s'exciter, j'allais dire, là-dessus.
Puisqu'on parle d'avenir et de positionnement, une question justement qui nous vient de Romain Grisca, qui est le président des Jeunes Populaires dans le 05. Une question à vous poser à ce sujet, écoutez.
Joël Giraud, bonjour. Vous semblez depuis un temps récent vous immiscer dans les affaires briançonnaises, politique du stationnement entre autres, en allant jusqu'à critiquer la gestion du maire socialiste et aider les habitants contre ce dernier. Ma question est simple, ne serait-ce pas une vengeance prématurée d'une possible candidature socialiste aux prochaines élections législatives?
Alors, il y a des histoires de personnes dans votre rapport entre Gérard Frome et vous-même?
Non, il n'y en a pas, on n'a pas le même caractère, ça, c'est évident. Mais à part ça, je ne comprends pas très très bien la question, parce que je ne vois pas en quoi je m'immisce dans les affaires briançonnaises. Quand je reçois des gens qui ont des choses à dire sur quelconque municipalité que ce soit, bah, tout simplement j'appelle le maire concerné en disant voilà, j'ai reçu un tel et un tel qui ont un problème concernant ceci ou concernant cela, et je le fais aussi bien avec le maire de Briançon qu'avec madame le maire de Saint-Véran, madame le maire d'Abriès ou monsieur le maire de Rémolon, quoi. Donc je ne m'immisce pas du tout dans la question. Je reçois des gens qui effectivement me posent un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des problèmes d'origine municipale, et après j'en parle avec les maires. Vous savez, le nombre de gens que je reçois qui ont un problème d'urbanisme dans la circonscription ou même en dehors de ma circonscription et qui me demandent d'essayer de voir avec le maire ou avec le service de restauration des terrains en montagne parce que c'est classé en zone avalancheuse ou autre, ce que je peux faire.
Donc vous ne marchez pas sur les plates-bandes comme le sous-entend Romain Grisca?
Je marche sur aucune plate-bande. En plus, je n'ai pas l'habitude de marcher sur les plates-bandes. Bon.
Alors justement, ce samedi, un autre dossier, on va parler électrique. Un collectif provenant depuis Saint-Eusèbe a manifesté pour la première fois pour s'opposer au chantier de RTE qui devrait prochainement voir le jour, on parle en année. Ils craignent notamment des retombées néfastes sur leur santé, sur le paysage, pour le fait que deux lignes vont passer aux 225 000 volts. Vous, par contre, en mai dernier, vous sembliez avoir eu un lien avec RTE dans lequel ces craintes avaient été suffisamment prises en compte. Apparemment, tout le monde n'a quand même pas été entendu, apparemment.
Ben, je vais vous dire, ça dépend des territoires aussi. Sur un certain nombre de territoires, dont le mien, il y a eu des réunions sous la houlette des élus, communautés de communes, communes, pour voir effectivement quels étaient les endroits où il y avait des enjeux, qui pouvaient être des enjeux de santé, parce que c'est vrai que c'est avoir une ligne au-dessus de la tête, c'est pas très agréable. C'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai constaté bêtement, à l'heure actuelle, moi, j'ai tous les groupes HLM du nord de ma commune qui sont sous des lignes électriques. Donc, j'ai fait savoir à RTE que je voulais que ces lignes ne passent plus sur, sur des habitants. J'ai environ 1000 habitants sous des lignes électriques. Après, on a parlé de sites naturels qui avaient un intérêt où il fallait mieux enfouir parce que c'était un problème que le paysage et l'environnement sont pour nous extrêmement importants. Sur Saint-Martin-de-Carrière, il y a un dialogue qui s'est réinstauré aussi parce qu'il y avait un site qui semblait ne pas convenir à la plupart des habitants de Saint-Martin-de-Carrière. Je veux dire, il y a eu un vrai dialogue. Il y a eu un vrai dialogue, mais dans un dialogue, il faut être deux. Alors, moi, quand même, ce que je voudrais dire, c'est que j'en appelle aussi aux élus locaux à s'approprier ce dossier de façon à ce que le dialogue se mette en place. Non pas qu'on arrive à 100% de personnes satisfaites. Bon, mais je pense qu'on peut arriver à trouver des tracés les moins péjorants possibles et où que ce soit, mais à condition de se mouiller un petit peu, j'allais dire, sur ce genre de dossier. Puis après, il y a l'autre aspect des choses. C'est la théorie de la décroissance. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir plus d'électricité? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bon, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, même quand on veut faire des énergies renouvelables, quand on veut faire, je sais pas, une ferme photovoltaïque, il faut bien l'évacuer par des réseaux, qui sont des réseaux de transport électrique. Et à l'heure actuelle, moi, j'ai des projets qui sont bloqués parce qu'on ne peut même pas évacuer le surplus d'électricité produite, qui est pourtant une électricité écolo, par les réseaux actuels. Donc, il faut bien se poser la question. Et puis, deuxième chose, moi, je l'ai répondu d'ailleurs à la plupart des opposants au projet, en dehors des questions de dialogue, il y a aussi une perspective qui est la percée ferroviaire sous le Mont-Gèvre, l'électrification de la ligne. Bon, on a besoin, là encore, de puissance électrique. Mm-hmm. Voilà.
Ça fait partie du développement industriel qui est indispensable, selon vous,
écoutez, il arrive qu'on n'ait pas assez de puissance électrique sur des zones comme des zones économiques de la Haute Durance. Mm-hmm. Donc, voilà. Alors, il ne faut pas tout réduire à la simple problématique, parce que j'ai vu un rapport sur les canons à neige expliquant que s'il n'y avait pas de canons à neige, finalement, ça irait beaucoup mieux. Bon, la réalité, elle est aussi qu'il n'y a pas que les canons à neige. RTE a fait une étude très fine des besoins économiques exprimés par les collectivités locales. Les collectivités locales ont lancé une première concertation avec RTE. Bon, je vous le dis, ça s'est plus ou moins bien passé suivant les coins parce qu'on a plus ou moins pris en considération un certain nombre de choses. Donc moi, ce que j'espère, c'est que le dialogue se réinstaure sous l'égide des communautés de communes concernées. Ben, ça me semble être la bonne échelle, parce qu'en général, d'abord, l'économie est gérée par les communautés de communes, et que des solutions soient trouvées, solutions d'enfouissement partiel par endroit. Enfin, des solutions comme celles-là ont été trouvées du côté de Saint-Martin-de-Carrière. Je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas trouvées du côté de Puy-Saint-Eusèbe ou d'autres communes. Donc voilà, moi, j'invite les gens au dialogue et les collectivités à se mêler de ce dialogue, parce que c'est leur territoire.
Alors, on parlait de développement industriel, ça rejoint justement la question de l'un de nos confrères, comme chaque jour, l'un de nos confrères de la Provence,
la presse écrite. Hein, sur notre
voilà, et aujourd'hui, c'est Maurice Fortoul de la Provence, on l'écoute.
Bonjour Joël Giraud, une question sur l'industrie. Le canton de l'Argentière est le dernier bastion industriel du département, enfin, je veux parler d'industrie lourde, bien sûr. Épisodiquement et très régulièrement, les dernières entreprises présentes sont en butte avec des difficultés. Les aciéries et fonderies de Provence, à l'Argentière, Extruflex, MG Industrie à la Roche-de-Rame, et de plan de sauvetage en plan de sauvetage, elles résistent, mais pour combien de temps encore? Alors faut-il continuer à assister artificiellement ce tissu industriel ou envisager purement et simplement le jour prochain de sa disparition définitive?
Bien, alors, bonne question. Je crois que si on envisageait la disparition complète du tissu industriel ou de tout tissu, j'allais dire, économique pérenne, on serait un département avec 99% d'emplois saisonniers, donc 99% d'emplois précaires, il faut être très clair. D'où l'intérêt de maintenir un potentiel industriel ou économique au sens large qui ne soit pas lié qu'au tourisme dans un département comme les Hautes-Alpes. Et le potentiel industriel du secteur, il est aussi lié à des savoir-faire. Donc, préserver ces savoir-faire, c'est préserver justement des emplois pérennes sur le secteur. Alors, en plus, de quoi parle-t-on? Vous savez que la politique industrielle de la France, elle n'existe plus depuis déjà un certain temps. D'ailleurs, il y avait une direction des stratégies industrielles au ministère de l'économie et des finances et de l'industrie qui a été supprimée il y a de cela une dizaine d'années parce qu'on ne fait plus de stratégie industrielle en France. C'était Bruxelles qui devait la faire à la place de la France. Bruxelles n'a pas fait de stratégie industrielle puisque je vous rappelle que les principales délocalisations sont des délocalisations intra-européennes. européenne. Quand une entreprise ferme en France et fait ses bagages, souvent elle va dans un ancien land de l'Allemagne de l'Est, ce qui n'est pas très loin. Bon, donc il y a de l'ordre à remettre justement dans la maison Europe avant de se poser la question de la Chine ou d'autres pays. Deuxième remarque, il y a effectivement, bon, pour reprendre l'exemple des fonderies à Assyrie de Provence, là on est vraiment sur un cas typique de que font les banques dans ce pays. Que font les réseaux bancaires dans ce pays ? On a fait moult réunions, les dernières avec la préfète des Hautes-Alpes, pour essayer tout simplement au départ de recapitaliser une boîte qui a 3 ans de carnet de commandes plein devant elle et qui devait se recapitaliser tout simplement pour faire face à ce carnet de commandes. Aucune banque n'a suivi. Aucune banque. Au motif que le taux de rentabilité de l'industrie en France est inférieur à ce qu'ils estiment être le point de rupture qui fait qu'ils s'engagent dans ce genre de logique. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? Alors effectivement, si tout le fric des banques va vers des fonds de pension, on va tous s'occuper des fonds de pension, tout ce que je constate, c'est que le taux de rentabilité d'une boîte, c'est aussi la rentabilité sociale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent. Donc on efface. Ça veut dire que clairement, on est dans un pays où le réseau bancaire ne fait plus son boulot. Il fait plus son boulot pas que là-dessus. Je regardais une entreprise de la filière bois énergie, qu'on veut mettre en œuvre et en vitrine, j'allais dire, dans un département comme les Hautes-Alpes. On finance un projet au travers de la Convention du Massif des Alpes et des fonds européens à 80%, donc un projet privé, de façon à ce qu'il y ait des plateformes en la matière. Et on se rend compte de quoi ? Que les banques refusent même d'accorder, ben, tout simplement, le crédit relais entre le démarrage de l'opération et l'obtention des subventions qui sont acquises. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le monde bancaire est complètement à côté de ses pompes par rapport à une économie locale. Les centres de décision sont partis, on le voit bien d'ailleurs dans les réunions, puisque tout le monde débarque de Marseille ou de Lyon et qu'il n'y a plus de centre de décision local. Donc nous sommes effectivement face à un monde bancaire qui n'est plus en prise avec les réalités locales, qui veut des taux de rentabilité qui ne peuvent plus être ceux de l'économie, je dirais au sens, pas seulement de l'industrie. Donc il est temps qu'au niveau national, là-dessus, il y ait un levier qui soit mis en place. Alors je ne sais pas si ça passe par certaines nationalisations bancaires, mais ça passe pour le moins pour une politique nationale d'aide aux entreprises, de faire en sorte qu'un certain nombre de garanties soient accordées de façon à ce que l'économie ne se casse pas complètement la gueule et que ce soit pas demain la France, un magnifique pays où on va simplement se bronzer au bord de la mer ou faire un petit peu de montagne et puis après on rentre chez soi mais on n'a pas de coq-routé.
Les banques ont donc une responsabilité, hein, c'est ça que vous dites
aussi. Elle est totale.
Merci Joël Giraud d'avoir été l'invité de la rédaction aujourd'hui.